Bonsoir à toutes et à tous, une nouvelle émission consacrée à la Polynésie française. Ce soir, notre sujet, comment le réchauffement climatique augmente un autre risque dans la région, le risque radioactif. C'est l'une des conséquences inattendues et dramatiques de la montée des eaux et de l'augmentation de la fréquence des tempêtes. Dans le Pacifique, les atolls qui ont servi aux essais nucléaires français pourraient être submergés ou dévastés, avec pour effet le rejet dans la mer des déchets radioactifs entreposés et enfouis sur ces îles. Nous en parlons ce soir avec l'océanographe et ancien ministre de la pêche indépendantiste de Polynésie française, Keitapu Mamatuia Utapu. L'occasion d'un entretien plus large avec lui sur son sentiment géographique, un classique de l'émission, mais aussi sur la géographie physique des îles de Polynésie française. Bienvenue à tous dans Géographie à la carte.
France Culture, Géographie à la carte, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Keitapu Mamatuia Utapu, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous pour l'une des trois émissions que nous consacrons cette saison à la Polynésie française. Pas de direct exceptionnellement, mais une émission enregistrée sur les hauteurs de la commune de Punaoya, qui jouxte Papeete. Nous pouvons voir de là où nous sommes l'île de Moorea, qui se trouve juste en face de Tahiti, et puis la végétation très verte sur les collines aux environs. Qu'est-ce qui fait pour vous le paysage de Tahiti? Qu'est-ce qu'il caractérise au fond?
En fait, c'est l'abondance végétale, c'est la verdure, c'est mais bon, ce qui nous aimons principalement la Polynésie, c'est plutôt l'océan. Nous, c'est la mer. Donc, en fait, nous sommes d'ailleurs la majorité de la population habite sur le littoral, donc en bord de côte. Donc, il y a très peu, il y a quelques personnes en vallée, les habitations en montagne. Il y en a très peu normalement lorsqu'on est loin de la ville. En fait, ça a commencé à se construire en montagne parce qu'il n'y avait plus de place. Et donc, d'ailleurs, en fait, rien que ce Punaoya, il doit y avoir 1, 2, 3, 4, 12, 5 routes qui montent sur la montagne. Donc, en fait, c'est vraiment la démographie qui a poussé les gens à habiter en montagne. Et puis, il y a aussi l'attrait de la vue, parce que de la montagne, on voit l'océan, la mer, et donc c'est très beau. Donc, par exemple, de Punaoya, on a un très beau coup de soleil, et puis voilà. Donc, c'est après la beauté de la Polynésie, c'est aussi diversité parce qu'il n'y a pas, il y a des îlots comme là où nous sommes en ce moment, Tahiti, et puis il y a des îles basses comme les atolls, et donc où la végétation est complètement différente, où bon, c'est moins exploité par les êtres humains, donc il y a moins de pollution, moins d'impact humain sur l'environnement.
Est-ce que quand on vit à Tahiti, sur l'île de Tahiti et de Moorea en face, parce que c'est vraiment juste à côté, c'est la banlieue d'une certaine façon de Tahiti, est-ce que on va beaucoup dans les autres îles de la Polynésie française, ou est-ce que c'est pas si simple quand même de voyager d'une île à l'autre?
Il y a des îles où c'est facile d'y aller, par exemple les îles sous le vent, parce que c'est desservi par des avions, mais en même temps il y a des ferries, donc des bateaux en fait qui tournent assez souvent sur les îles sous le vent. C'est devenu facile en fait depuis 2 ans. Donc en fait, et puis maintenant il y a une forte concurrence entre compagnies aériennes, compagnies maritimes, etc. Donc ce qui fait que ça facilite beaucoup pour les îles sous le vent. Donc après, c'est lorsqu'on va un peu plus loin, lorsqu'on va, par exemple, vous avez l'archipel des Australes qui est plus au sud, ou les Marquises, ou les Gambiers qui sont complètement à l'est, les Tuamotu, là on s'éloigne un peu plus, on va dire qu'on va commencer à dépasser les 500 km. Et là, les gens ont plus tendance à prendre l'avion, mais il y a toujours des bateaux qui y vont, mais il y a pas suffisamment de place en fait sur les ce sont en général des bateaux cargo, mis à part un qui prend des touristes, mais donc c'est assez difficile lorsqu'on s'éloigne de plus en plus de Tahiti. En fait, certaines îles qui sont à 1000 km, c'est très difficile, et même très difficile pour y aller parce que l'aéroport n'est pas aux normes ou n'est pas assez grand pour pouvoir accueillir les gros avions, les avions de taille respectable.
Et oui, parce que vous parlez de ces distances, 500 km, 3000 kilomètres. On est vraiment dans l'immédiate banlieue, là aussi, de Tahiti, tellement les distances sont éloignées. La Polynésie française, c'est 2500 kilomètres des Tonga, je parle de Tahiti, 3800 de la Nouvelle-Zélande, 7300 kilomètres du Chili, 15000 kilomètres de la Bretagne, si on a envie d'aller en Bretagne.
Ouais, c'est assez simple hein, pour ceux qui habitent l'Europe. C'est aussi vaste que l'Europe, par exemple. Si on place Tahiti sur Paris, les Marquis se trouveraient en pays scandinave. L'archipel des Australes se trouverait dans la boîte italienne. Et puis, vous avez les Gambiers, par exemple, qui se trouveraient en Roumanie. Donc, c'est longue étendue et surtout, en fait, ce qui est admirable, par contre, ici, c'est le langage a un peu évolué, mais ça reste le polynésien quand même. C'est un langage polynésien et bon, ce sont les distances qui ont fait et puis le temps, en fait, parce que le temps que les gens se rencontrent, qui a fait que le langage a évolué, donc dans chaque groupe d'îles, donc c'est différent.
Qu'est-ce que ça crée pour vous personnellement, ce sentiment de la distance? Peut-être qu'on n'a pas le sentiment d'ailleurs d'éloignement, c'est une vision probablement un petit peu européano-centrée, mais vous ne vous sentez pas éloigné de quoi que ce soit après tout.
Non, en fait, pour ceux qui sont proches de la mer, on ne se sent pas éloigné du tout. On ne se sent pas, par exemple, les îles Cook, Rarotonga, en fait, on se sent, on les sent juste à côté.
C'est les voisins.
Voilà, ce sont nos voisins. En fait, ça va même jusqu'en Nouvelle-Zélande. Il y a la Polynésie française, mais il y a la Polynésie qui est encore plus grande. C'est Hawaï, en fait, on parle du triangle polynésien qui va de Hawaï jusqu'à Nouvelle-Zélande et jusqu'à l'île de Pâques.
Alors, elle a été constituée comment géologiquement, Keitapu, Mamatu, Keitapu, cette Polynésie française? En face, on peut voir donc l'île de Moorea. Peut-être que vous pouvez nous décrire un peu sa forme très extraordinaire et caractérisée par son volcan.
Oui, en fait, généralement, en fait, les îles sont nées dans ce qu'on appelle un point chaud. Et, en fait, un point chaud, c'est lorsque en fait, le magma vient percer la croûte. Nous, on appartient à ce qu'on appelle la plaque pacifique. D'accord, en fait, et en dessous, imaginez une plaque en acier, vous mettez un chalumeau, et là où c'est assez mince, le chalumeau va percer, et donc le magma va sortir, et donc ça va former l'île. C'est la théorie des points chauds, et notre plaque se déplace doucement, en fait, nous, c'est la plaque pacifique, elle se déplace tout doucement sous le Japon, d'ailleurs, donc en fait, vers l'ouest, et ce qui fait, on a des alignements d'îles, par exemple.
Des chapelets, comme ça.
Voilà, des chapelets, en fait, c'est parce que c'est le même point chaud. Par exemple, Tahiti, qui est une île récente, parce que le point chaud se trouve juste à l'est de Tahiti. Ce point chaud-là, c'est le même point chaud que les îles sous le vent. Donc, vous avez Raiatea, Bora Bora, toutes ces îles-là sont issues de ce même point chaud. Voilà, et puis vous avez, par exemple, les Tuamotu. Les Tuamotu, il y a des points chauds, donc même pour les atolls, en fait, puisqu'en fait, il faut un socle basaltique pour la formation des atolls. Donc, en fait, c'est le point chaud qui se trouve au Pitcairn. Cette histoire de plaque, c'est un peu comme si on regarde, vous avez la même chose dans l'océan Atlantique, la ride atlantique, en fait. Vous avez le magma qui remonte sur la ride et puis qui va pousser les plaques sur les côtés, en fait. Vous avez, par exemple, notre plaque qui coule sous le Japon. Vous avez une autre plaque qui coule sous le Chili. Donc, on ne fait pas partie de celle-là.
Est-ce que ça signifie que toutes les îles de la Polynésie française sont d'origine volcanique?
Oui, ça c'est une certitude. Donc c'est origine d'un volcan qui est sorti de l'océan. Donc.
Et avec une activité volcanique qui continue aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des îles qui sont peut-être en train d'émerger.
Voilà. Oui, on a par exemple il y a un qui vient d'émerger. Quand on dit pas, il y a pas longtemps, 10 ans, ça fait très court. Hein, parce que par exemple Tahiti c'est une île jeune, mais c'est 500 000 à 1 million d'années. Puis on voit aussi avec le paysage, en fait, on peut voir, en fait, si jamais vous avez l'occasion d'aller aux îles sous le vent, l'île la plus vieille qui est née de ce même point chaud, c'est Maupiti, ou à Bora Bora, c'est le même point chaud, en fait, vous voyez que l'île, en fait, c'est fortement érodé, en fait, il y a, où on n'a pas des montagnes qui sont escarpées comme on a à Tahiti, en fait, on voit bien cette jeunesse, on voit bien cette fraîcheur de l'île qui n'est pas encore usée par le climat, le temps, etc. Oui, les points chauds sont toujours actifs, donc le nôtre se trouve à l'est, à, bon, on va dire 100 kilomètres.
Mais là, il n'y aura jamais de lave qui va sortir du volcan de Tahiti, ou des volcans de Tahiti, parce qu'il y en a deux, je crois.
Maintenant, le volcan de Tahiti, on le est dit éteint, en fait, ça s'est refroidi, et même l'île est en train de... Enfin, lorsque ça se refroidit, en fait, l'île retombe un peu. Voilà. Après, quant à la forme de Moorea, cette forme-là, en fait, on a la même forme de Tahiti. En fait, c'est parce que c'est une caldeira. En fait, une partie du volcan s'est écroulée. C'est ce qui fait qu'on a cette ouverture-là.
Caldeira, ça s'appelle?
Voilà. Une caldeira, en fait, c'est un volcan où il y a un pan de montagne qui s'est écroulé, soit dans l'eau, généralement c'est dans l'océan ici.
Donc il y a ces îles volcaniques et puis il y a les atolls, c'est les deux grandes espèces un petit peu d'îles qu'on trouve en Polynésie française.
Oui, les atolls se sont bâtis sur un cône, une basaltique, comme la roche dominante ici, c'est toutes nos îles sont basaltiques. Il y a deux théories qui se battent en ce moment. En fait, vous avez la théorie de Darwin qui date depuis 200 ans, où l'idée c'était en fait l'île s'est formée, mais puis après, lorsque le volcan s'est refroidi, en fait, l'île s'est coulée, mais le corail a poussé en marge, en bordure. Donc
c'est ça qui forme l'espèce d'anneau.
Voilà, ouais. L'anneau, voilà, c'est ça qui va former l'anneau. Donc ça, c'est la théorie de Darwin, en fait. Bon, ok, c'est difficile à contester, puisque ça colle avec l'hypothèse de refroidissement de l'île, donc l'île peut couler.
Donc des volcans qui se sont enfoncés dans la mer, et ce qu'on voit au fond, c'est ce qui émerge, c'est le haut de la cuvette quoi, du volcan.
Voilà,
c'est
exactement.
Ça
en fait, ce qui fait, normalement, si on va à l'intérieur du lagon, en fait, on doit être très proche de la roche basaltique, donc au milieu du lagon. Après, l'autre théorie qui est basée plutôt sur le réchauffement climatique, c'est l'équivalent, je vais pas dire réchauffement, c'est plutôt la montée et la descente du niveau de la mer. Pendant l'ère glaciaire, en fait, le niveau de l'eau va baisser. Et donc, en fait, le corail va se retrouver à la surface. Une des dernières théories, c'est que le corail a poussé de façon homogène, ça a formé un plateau. Et lorsque le corail va sortir en dehors de l'eau, en fait, avec les pluies, etc., en fait, ça va commencer à dissoudre le calcaire, etc., ce qui forme, la bordure, à certains endroits, il y a des passages, et puis sinon, ça reste tout entouré de corail. Et donc, c'est la théorie, apparemment, qui est non contestée non plus.
Donc, on a deux théories qui sont non contestables, alors.
Voilà. Enfin, la deuxième conteste la première. Donc, pour le moment, la première ne peut pas venir contester la deuxième, puisqu'elle est née il y a bien
plus. Vous avez peut-être un avis personnel sur
la meilleure théorie. C'est difficile. C'est la dernière théorie. Il y a eu des vérifications, pas simplement ici, dans plusieurs océans, donc, où il y a des atolls. Donc, c'est des choses, difficilement vérifiables, puisque c'est par exemple pour passer de l'ère glaciaire à ce qu'on appelle l'interglaciaire. L'interglaciaire, c'est quand la température est à son plus haut, donc en fait on passe à un sommet, c'est 5000 ans. Donc c'est très très lent. Donc en fait, le fait que l'eau monte et descend, en fait, quand l'eau va monter, en fait, le corail va pousser, et puis après quand ça redescend, en fait, ça va être dissous par la pluie, parce que en fait ça va être lessivé, donc plus rapidement qu'une île autre, et donc c'est après il y a formation de récifs.
Est-ce que Tahiti va devenir à terme un atoll aussi, alors puisque c'est une île volcanique, pourrait s'enfoncer aussi?
Ça va s'enfoncer, mais à terme, je ne sais pas, c'est difficile à dire. En fait, ça va s'enfoncer. Ben après, maintenant, ça dépend jusqu'à quelle profondeur ça va s'enfoncer. Et puis, il y a aussi l'érosion naturelle. Donc, ça va lessiver, donc toute la terre va partir. Donc, à la limite, pourquoi pas?
On verra, ou plutôt on verra pas.
On sera pas là pour le voir, malheureusement.
L'eau à l'intérieur de ces atolls, c'est une eau qui est froide, qui est bien souvent très limpide, très claire. La biodiversité à l'intérieur, Keitapu, Mamatu et Aotapu, elle est de grande qualité.
Au niveau du lagon, oui, en fait, il faudrait quand même le situer un peu en termes de biodiversité. Nous ne sommes pas le pays où la biodiversité est la plus grande. En fait, ça diminue lorsqu'on vient vers l'est, c'est-à-dire lorsqu'on arrive en Polynésie. Par exemple, si on va en Indonésie, la biodiversité est beaucoup plus grande. La biodiversité, ça inclut la végétation, ce qu'il y a sur Terre et ce qu'il y a dans l'eau. Donc,
il y a une raison pour cela, pour le fait qu'il y ait plus de biodiversité?
D'abord, en fait, c'est des grandes îles, donc beaucoup grandes, c'est presque des continents. Hein, donc, Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'Indonésie, c'est grand. Donc, en fait, il y a des espèces que nous, on n'a pas ici. Par exemple, les serpents, nous, on n'en a pas. Nous, il y a pas de crocodiles. En fait, ici, à part les petits sans-pieds, donc, c'est tout ce qu'on craint ici, et les moustiques.
Dans la mer, vous avez comme des requins.
Voilà, et dans la mer, en fait, il y a, on retrouve la même chose. La plus grande biodiversité à l'ouest du Pacifique, et ça diminue vers l'est. Donc, si on compare, en fait, Tahiti et Tuamotu, la biodiversité ici est généralement beaucoup plus grande. Après, en termes, ici, à cause de l'être humain, en fait, parce que nous, on exploite, faut que les gens sachent, le Polynésien adore le poisson, donc c'est un chasseur né, et donc là où il y a beaucoup de monde, en fait, les poissons, en fait, sont de taille réduite, en fait, ça a fortement diminué à cause de la surpêche.
Parce que vous avez été ministre de la pêche, peut-être que vous avez eu à travailler sur ce sujet.
Oui, enfin, c'est un sacré problème, parce qu'en fait, pour les gens, parce que tout le monde n'a pas un travail comme le mien, travaille dans un bureau, est un fonctionnaire, etc. Donc les gens essaient de trouver des moyens pour se nourrir, en fait, et même pour avoir de l'argent. Donc, en fait, et donc on commence à vendre un peu de tout et on commence à surexploiter les lagons, en fait, les petits poissons. Ce qui n'est pas le cas, par contre, au Tuamotu, sauf certaines îles, Tikehau, par exemple, ça commence aussi à être exporté, c'est un atoll des Tuamotu, proche de Rangiroa. Voilà, donc, en fait, la plus grosse crainte, c'est vraiment l'être humain, c'est comment on exploite ces ressources-là. Mais il y a beaucoup, beaucoup, quand même, de poissons, c'est pas pour décevoir les gens qui nous écoutent.
Et puis, on peut les voir, parce que comme l'eau est transparente...
Beaucoup de poissons, suffisamment de poissons au Tuamotu et de requins pour voir... à voir. Donc,
comment ça se forme une barrière de corail, un récif corallien? De là où on est, on voit dans la mer cette vague qui est à quelques dizaines de mètres du rivage et qui se forme précisément sur le corail avant d'arriver là, sur le rivage de Tahiti. Qu'est-ce que c'est un récif corallien et
voilà.
Comment ça se forme?
Oui, en fait, voilà, c'est un peu la théorie de Darwin. C'est qu'en fait, l'île s'est formée, il y a un anneau corallien qui s'est formé autour de l'île, comme Tahiti, en fait. Et bon, votre question n'était pas bête. Peut-être d'ici plusieurs millions d'années, Tahiti sera un atoll. Maintenant, si on se base sur la deuxième théorie, c'est parce qu'en fait, le corail, à cause de la montée des eaux, le corail va pousser et puis va rester en surface. Après, ça va être lessivé. Après, ça va. Donc, il y a une partie sûrement à l'intérieur du lagon, par exemple ici. Donc, c'est la deuxième théorie qui pourrait marcher à ce niveau-là. Donc, c'est. Bon, après, ici, Tahiti bénéficie, donc c'est un cas un peu différent de ce qui est des atolls parce que nous avons des rivières. Donc beaucoup d'alluvions qui descendent et donc en temps de pluie par exemple, en fait, notre beau lagon se transforme en eau boueuse et donc en fait ça empêche la poussée des corail. Donc le corail ne pousse pas quand il y a plus de lumière.
Bon, en tout cas c'est pas le cas en ce moment. Le lagon est absolument magnifique et très très clair. Qu'est-ce que le réchauffement climatique a comme effet sur les coraux?
Le réchauffement climatique, il y a deux effets. Enfin, d'abord, en fait, ce qu'on a constaté ici, c'est que lorsque la température augmente, le corail blanchit. On parle de blanchiment du corail. Et donc, parfois on a des périodes très chaudes ici. Donc normalement, en fait, c'est ce mois de décembre, en fait, c'est l'été austral, donc à partir du mois de décembre, on risque d'avoir très chaud cette année. Donc parce qu'en fait, on a le phénomène El Niño qui nous amène de cette eau chaude donc sur la Polynésie. Donc on risque d'avoir le blanchiment, donc ça c'est constaté. Et puis là, après, l'autre impact de du réchauffement climatique pour le corail, en fait, c'est... Parce que l'origine du réchauffement, on pense, maintenant les scientifiques sont sûrs que c'est dû à l'activité humaine, donc en fait au rejet de CO2 dans l'atmosphère. Et donc ce CO2 est en partie absorbé par l'océan. Ce qui va rendre en fait l'océan un peu plus acide, c'est pas beaucoup, mais suffisant pour dissoudre en fait le calcaire, puisque le corail est à base de calcaire. D'accord, si vous prenez un morceau de corail, vous mettez dans de l'acide, ça se dissout, il n'y a plus rien qui reste après.
Donc c'est ce qui est un peu en train d'arriver.
Voilà, donc en fait il y a l'effet combiné, la mortalité due à l'augmentation de la température et due aussi à l'acidification.
On voit que ça avance et que ça progresse de plus en plus vite, ce phénomène dont vous parlez.
C'est comme disait un scientifique, si vous voulez, vous pouvez comparer ça en fait, au jeu. Là, en fait, vous prenez un verre d'eau, vous remplissez à ras-bord, et puis vous laissez tomber une pièce et vous allez... En fait, ça va arriver, ça risque d'arriver tout d'un coup.
Oui.
Donc, mais quand c'est ça, on ne le sait pas.
Vous êtes inquiet ?
Inquiet, non, parce que nous sommes des gens de la mer. Donc, ça fera encore plus d'eau. On prend les choses de façon très, pas dilettante, mais on est conscient de ce problème. D'accord? Par exemple, l'autre jour, j'écoutais le maire d'Anatole et Tuamotu qui disait, ouais, nous, ça va, on n'est pas inquiet, puisque la montée des eaux ici, du réchauffement global, c'est de 2 mm par an. Donc, pour lui, c'est pas beaucoup. Mais si on applique ça à la dimension de notre pays, 2 mm sur 5 millions de kilomètres carrés, ça fait un gros volume d'eau. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ce volume d'eau se déplace. Si ça se déplace sur nous...
Donc il se rapporte forcément au même endroit, donc ça peut monter beaucoup plus à certains endroits.
Exactement, c'est ce qu'on constate d'ailleurs dans le Pacifique, à l'ouest par exemple, c'est beaucoup, le niveau de la mer beaucoup élevé, beaucoup plus élevé qu'ici.
France Culture, géographie à la carte. Mathieu Garrigou-Lagrange.
Nous sommes toujours en compagnie de l'océanographe et ancien ministre de la Pêche, Keita Pumamatuyautapu, pour évoquer à présent la question du risque que fait peser le réchauffement climatique sur la pollution des océans par des déchets nucléaires. Pour comprendre le lien entre ces deux choses, eh bien, il faut commencer par faire un petit peu d'histoire et rappeler que c'est d'abord en Algérie que ces essais nucléaires français ont eu lieu. Faites un peu, si vous le voulez bien, avec nous, cette histoire pour raconter comment est-ce que c'est finalement en Polynésie que ces essais ont été effectués.
Oui, je pense que à l'époque, c'est au temps du général de Gaulle. Hein, donc, je pense qu'il savait que ça allait mal en Algérie. Donc, en fait, puisqu'il y avait déjà eu... il y avait la guerre. En fait, c'est cette guerre avec l'Algérie qui a fait que les autorités ont bien compris qu'il fallait quitter le pays. Donc, c'est le...
Alors, ils ont d'abord pensé à aller en Corse.
Il y a eu ces discussions. Bon, après, je pense, on va dire que peut-être en France, les gens sont pas trop ignorants, ou sinon, ils contestent les armes. Donc,
c'est ce qui s'est passé en Corse.
Voilà, oui,
la société civile s'est mobilisée.
Il y avait la Corse, on avait même parlé du Massif central, donc pour les essais. Ben après, ici, en fait, avec ces contestations en Algérie, en France, etc. Bon, ils auraient pu le faire sur Tahiti. Non, ils ont choisi deux atolls bien isolés, loin de tout le monde.
Il valait mieux que ce soit quand même un petit peu plus loin.
Voilà, un peu plus loin, où en cas de contestation, en fait, la population peut être déplacée facilement en cas de problème. En fait, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Il y a eu des essais où toute la population du Nil a été déplacée pour revenir sur Tahiti aux festivités, parce qu'ici, il y a les festivités tous les mois de juillet. Donc, on a déplacé toute la population, on leur a dit, vous allez faire la fête à Tahiti. Et voilà, et en fait, le nuage est passé chez eux. Donc,
Alors déjà, à combien de kilomètres de Tahiti ça se trouve, ces atolls de Mururoa et Fangataufa? C'est très loin d'ici.
C'est bien de le prendre un peu, parce qu'en fait, ici, nous, il y a quand même 128 îles. Donc,
dans toute la Polynésie française.
Voilà, la majorité sont des atolls. Donc, il n'y a pas beaucoup d'îlots. Ouais, c'est vrai que les distances, ça a été choisi exprès pour la bombe, assez éloignée de Tahiti pour qu'il n'y ait pas de contestation. Mais à l'époque, en fait, les gens ne pouvaient pas trop contester parce qu'on ne savait pas trop ce que c'était. En fait, la France, les autorités ont profité de notre ignorance. Les gens voyaient ça, pas de maladie, radio-induite, etc. Alors qu'en France, on le savait déjà, puisque ça date de Marie Curie, puisqu'elle en est décédée. Et puis, bon, le fait que ça soit loin, peut-être ça a rassuré un peu aussi.
Loin, c'est-à-dire 1000
kilomètres. 1000
kilomètres.
1200 kilomètres entre Tahiti et Mururoa. Et Muru, enfin, Mururoa, c'est comme, nous on le dit Mururoa, mais bon. C'est la même chose. Donc, en fait, c'est très loin, donc très isolé. Donc, en fait, peu de population.
Peu de population, ça veut dire 80 habitants dans l'atoll le plus peuplé, le plus proche. C'est Tureia, c'est à 108 kilomètres.
Voilà, exactement. Donc, après, les autres parties des îles l'autre archipel, c'est les Gambiers, qui étaient un peu dans la direction du vent, parfois. Donc, il y avait quand même des retombées sur ces îles.
Donc Mururoa, Fangataufa et un troisième atoll. C'est un atoll ou c'est une île?
Oui,
c'est un atoll.
C'est un atoll.
Hao, qui était un peu la base arrière au fond des deux autres, où il y avait un laboratoire de recherche.
Oui, parce que Hao, c'est plus grand qu'on dit. Plus grand, c'est quand même, ça reste sur le corail. Hein. Donc, en terre émergée, c'est quand même beaucoup plus que Mururoa. Enfin, Mururoa, ça fait quoi, 15 km carrés, donc c'est tout petit en terre émergée. Hein. Donc, avec 150 km carrés de lagon, donc c'est très petit. Et puis, il n'y avait pas assez de terre, en fait, pour y mettre une base et puis construire un port profond, parce qu'il faut un port profond et surtout une piste d'aviation qui pouvaient recevoir les avions de chasse.
Donc tout à coup, toute la Polynésie se met un petit peu, Polynésie française, à travailler de près ou de loin
sur le système nucléaire. Il y a des militaires qui arrivent, des Polynésiens qui travaillent également, même à Tahiti, alors que l'on est à 1200 km, il y a aussi des gens qui travaillent pour le nucléaire. Comment ça se passe?
Oui, parce que bon, la vraie base aérienne, ça reste Tahiti. Après, Beihau, c'était pratique pour se rapprocher des atolls. En fait, comme ça se passait, c'est qu'en fait, au final, tout le monde a laissé un peu tomber ce qu'on faisait avant, l'agriculture, la pêche. En fait, c'est quasiment, c'est à dire quasiment toute la population qui a travaillé pour le CEP.
Donc, le CEP, c'est
le centre d'expérimentation du Pacifique. Il y a eu un gros déplacement de population sur Hao. Enfin, Hao, c'est un atoll. En fait, la population est montée très vite. Il dépasse 1000 personnes. En fait, bon, ça s'est stabilisé autour de 1000 parce que c'est devenu un centre un peu administratif de la partie est des Tuamotu.
Il y a eu une reconversion un petit peu de
Il n'y a pas vraiment de reconversion. Il y a eu des tentatives. Bon, ça n'a pas, mais ça a tout avorté. Donc, en fait, on n'a pas réussi. En fait, on pensait mettre, enfin, il y a une tentative encore avec le précédent gouvernement du pays pour mettre en place un centre aquacole, donc pour faire l'aquaculture de poissons, essentiellement.
Donc c'est le 6 février 64 que la commission permanente de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française a décidé de donner à la France les deux atolls de Mauroa et Fangataufa. Pourquoi, selon vous, ce don? Parce que encore aujourd'hui, ce sont des atolls qui appartiennent en propre, c'est-à-dire directement à l'État français, peut-être même à l'armée française. Ça n'est pas sous la juridiction du gouvernement de la Polynésie française. Keitapu, Mahamatua et Aoutapu.
Ben, je vais dire, en fait, ce don, en fait, la question, c'est avions-nous le choix? Certains n'ont pas voulu parler de ça à l'époque, et disons, en fait, on parlait toujours de développement du pays, d'accord. Ben, d'ailleurs, on a eu un développement, on va dire, une modernisation à l'occidentale fulgurante, ici, très rapide, en fait, que les gens ne se sont pas forcément adaptés.
Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé pour certains d'entre eux?
Voilà, en fait, la population, d'ailleurs, en fait, est restée en marge. Donc, en fait, n'a pas réussi, en fait, à prendre souvent le train en marche. Donc, en fait, sauf pour aller faire des travaux, par exemple, de construction, tout ça. Mais après, une fois que tout ça s'est arrêté, en fait, nous, en moins de 30 ans, en fait, on s'est retrouvés quasiment même à un niveau supérieur au village qu'on trouve en France, en termes d'infrastructures,
etc. Et ça, c'était une mauvaise chose pour vous, sur le long terme?
Ben, mauvaise chose, moi, je pense que c'est une mauvaise chose dans le sens où on n'a pas su, où les gens ont eu du mal à s'adapter. Donc, ça. Ouais, pour revenir à l'atoll, en fait, on nous a un peu mis le couteau sous la gorge. En fait, on a eu la réponse d'un des membres du gouvernement de la Polynésie, qui nous disait, en fait, c'était ça, ou sinon c'était la loi martiale en Polynésie. Donc c'est toute la Polynésie qui serait militaire ou qui appartient. Enfin, on appartient toujours à l'État puisque nous ne sommes pas indépendants dans son ensemble. Et donc voilà. Donc, mais c'est vrai que ces deux îles-là, en fait, l'État s'en accaparé. Ouais, vous l'avez dit, hein, c'est peut-être militaire. En effet, c'est parce que bon, Hao, c'est parce qu'il y a encore des civils qui vivent. Donc en fait, c'est ouvert à tout le monde, on peut y aller. Mais Mururoa et Fangataufa. Et Fangataufa, on ne peut pas y aller.
On ne peut même pas s'en approcher en bateau?
On ne peut pas s'en approcher. En fait, il y a toujours des militaires qui sont sur place.
Alors, qu'est-ce qu'il y a sur ces îles? Simplement des militaires qui surveillent? Ou est-ce qu'il n'y a pas de magasins? Il n'y a pas d'habitation ou très peu?
Ben, il n'y a que les militaires qui surveillent s'il y a des bateaux qui s'approchent, etc. Donc, en fait, pour y aller, il faut une demande spéciale. En fait, c'est une vraie enclave de la France en plein au milieu de la Polynésie française. Donc,
pour retourner à l'histoire, il y a donc eu deux types d'essais, à Mauroa et à Fangataufa.
Voilà, il y avait en gros 193 essais, donc il y a une quarantaine d'essais atmosphériques et la majorité souterraine. D'accord, complètement. Après, avec ce qui s'en suit, enfin, surtout connaissant comment un atoll est fait, etc.
C'est-à-dire la fragilité.
Voilà, exactement. Oui, parce que ça se faisait au début sur le récif barrière avant qu'ils le fassent à l'intérieur du lagon, en fait, sur le sommet basaltique. Et donc, en fait, il y a eu certains problèmes qui ont été rencontrés puisque le corail est très fragile.
Oui. Alors, un essai nucléaire aérien, bon, on comprend à peu près comment ça se passe, mais un essai nucléaire souterrain, comment ça fonctionne, Keïta Pouma Mathieu?
Voilà, oui, donc on va commencer. L'aérien, en fait, il y avait plusieurs façons de le faire. En fait, il faisait soit exploser à partir d'un avion, soit à partir d'une bâche au-dessus du lagon, ou soit transporté par un ballon haute atmosphère, après il faisait exploser. Donc, ce qui veut dire, en fait, tous les essais aériens, en fait, il y a des retombées. Elle est radioactive. Donc, en fait, ça retombait sur les populations à côté. En fait. Donc, j'y allais voir. Donc, en fait, les populations, souvent, ne sont pas dans des bunkers, en fait, ne sont pas protégées par des murs épais en béton. Souvent, c'est une tôle ondulée comme protection. Donc, aujourd'hui, on le ressent. En fait, il y a beaucoup plus de malades induits par la radioactivité.
Alors là, il faut peut-être parler d'un essai en particulier, qui est l'essai Centaure, qui date de 1974 et qui a été un accident en réalité.
Voilà, en fait, la question, c'est est-ce que c'était le seul toujours? Parce qu'en fait, on est quand même toujours, d'ailleurs, gardé. Toutes les informations sont secret défense, donc on n'y a pas accès. Donc, de temps en temps, ils ouvrent le robinet, après ils ferment très vite, dès qu'il y a une information qui sort dans la presse. Et donc, et c'est vrai que le Centaure, en fait, c'est celui-là dont on a parlé, parce qu'en fait, le rapport des militaires parlait plutôt de... Enfin, c'est que le nuage est arrivé sur Tahiti, mais...
Qu'est-ce qui s'est passé exactement et pourquoi ça a été un accident?
Ben, ça a été un accident, c'est parce qu'en fait, la prévision météorologique n'a pas été bonne. Et souvent, il y a peut-être aussi une contrainte, ça je ne le sais pas. Donc, dès ces grosses têtes qui arrivent, ces autorités qui viennent et qui veulent absolument voir comment ça se passe, aussi, en fait, c'était un peu comme ça aussi, le premier tir, en fait, c'était un peu en hâte. C'est extraordinaire dans le rapport des militaires, ils parlaient que de la presqu'île qui était où le nuage est arrivé. Et dans leur rapport, ils disaient, bon, c'est pas trop grave. Et ça faisait 10% de la population. C'était cité comme ça.
Parce que le nuage de particules radioactives était censé s'élever à 8000 mètres d'altitude, là où les vents l'emportaient dans des lieux qui n'étaient pas habités. Or, problème météo, il ne s'élève qu'à 5000 km et là, le nuage arrive sur Tahiti 3 jours plus tard, mais on ne prévient pas les Tahitiens de l'imminence de l'arrivée de ce nuage. Personne n'a jamais parlé de la pollution qui avait eu lieu, enfin en tout cas sur le moment, on n'en a pas parlé.
Non, en fait, on n'en a pas parlé sur le moment, en fait, c'est après fouille, d'ailleurs, en fait, je crois qu'il y a Disclose qui a révélé, en fait...
Le média Disclose.
Voilà, ouais, que finalement, en fait, le nuage a vraiment pollué toute l'île. Et si ce n'est pas la totalité de la population est concernée par ce nuage, en fait.
Parce qu'il a plu en plus sur
Tahiti.
Oui, en
fait, avant d'arriver ici, c'est passé sur d'autres îles. Et puis, en fait, connaissant, si vous regardez un peu une carte des vents, c'est sûr que ça a touché la majorité des îles de la Polynésie.
Donc ça, c'est un accident aérien. Oui. Il y a eu des accidents aussi. Souterrain. Alors on pourrait imaginer que c'est souterrain moins dangereux puisque la radioactivité a priori ne s'échappe pas dans l'atmosphère. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, en fait, souterrain, si c'était, encore c'est des hypothèses parce que aucun scientifique, il n'y a que les scientifiques militaires qui pouvaient vérifier cette hypothèse puisque l'idée de faire exploser une bombe en souterrain, c'est de le faire exploser dans une roche. Et ça reste dans la pensée que la roche va fondre et va piéger complètement la matière radioactive. Sauf que là, au niveau de Mururoa, avant d'atteindre la roche, il faut parfois descendre jusqu'à 500 mètres de profondeur. Au-delà, donc, voire un kilomètre.
Voire un kilomètre, oui.
Voilà, un kilomètre et puis y arriver. Mais parfois, c'était un raté, d'après eux. En fait, la bombe n'est pas descendue assez profond et a explosé au niveau de la couronne récifale. Et donc,
la bombe est restée bloquée au fond dans le puits. Elle devait descendre bien plus profond. Voilà. Et puis, comme elle était bloquée, l'explosion a eu lieu quand même.
Voilà. Donc, parce qu'une fois qu'on lâche, en fait, je pense que c'est préprogrammé. Donc, personne ne sera là pour... Et donc, ça a dû exploser. Et voilà, et ça a créé des dommages, puisqu'en fait, il y a un pan du récif de la barrière corallienne qui est tombé.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'accident du Tirtidé, qui a eu lieu le 25 juillet 1979, qui a fait, donc comme vous le dites, s'effondrer une partie de la falaise récifale. Il y a même eu des blessés, je crois, à Euroa même.
Oui, il y a eu des blessés, enfin, emportés par la vague. Bon, après,
est-ce que ça a créé un tsunami?
Voilà, exactement. Donc, ça crée. En fait, c'est ce qu'on craint aujourd'hui. Donc, un peu, parce qu'en fait, avec tous ces essais dans la barrière corallienne, en fait, ça a fragilisé le récif corallien. Et donc, on craint qu'un autre bout tombe.
Un autre bout de la falaise Amururoa tombe dans la mer et crée un tsunami de nouveau.
Crée un tsunami, en fait, et puis l'île la plus proche risque de ramasser la vague. Donc, les gens sont donc dans la sécurité ici. Donc,
en fait, là-dessus, les autorités nucléaires françaises disent que c'est possible que ça arrive, mais que l'île, en l'occurrence, dont vous parlez, ne serait pas affectée parce que les habitations sont à plus de 3 mètres et que donc le tsunami, c'est en tout cas ce que dit le rapport à ce sujet, n'atteindrait pas les habitations.
Oui, c'est possible, mais maintenant, on ne sait pas quelle quantité va tomber. D'ailleurs, l'île est sous surveillance, en fait, les militaires le surveillent, en fait, il y a des instruments, mais à un moment, ça va tomber. Mais en fait, le problème, c'est quand.
France Culture, géographie à la carte, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Nous sommes toujours à Tahiti avec l'océanographe et ancien ministre de la pêche de Polynésie française, Keitapu Mamatuyauitapu. Pour évoquer le croisement entre risque nucléaire et risque climatique dans la région. Le risque climatique d'abord, on en a déjà un petit peu parlé ensemble, il est déjà visible avec l'augmentation du niveau de la mer et puis les problèmes sur les coraux. En quoi est-ce que finalement ce risque climatique il est lié au risque nucléaire? Parce qu'on voit bien qu'il y a ces deux risques qui coexistent, mais quel est le lien entre les deux?
Ben, si on prend c'est atmosphérique, en fait, tous les essais effectués sur barge, en fait, ont pollué les lagons. D'ailleurs, le plutonium a été mesuré dans le lagon à plus ou moins forte concentration. Donc, un niveau de mer plus élevé, ça veut dire, en fait, que le récif barrière qui faisait protection du lagon risque de disparaître. Et donc, en fait,
donc l'eau polluée à l'intérieur du lagon part,
s'échappe
dans la mer.
Voilà, donc ça va s'échapper dans la mer. Puis, en se fragilisant, en fait, toute la végétation va partir. En fait, après, le récif barrière à l'extérieur, en fait, risque aussi de bouger, parce qu'en fait, ça va être pris d'assaut. D'abord, par les vagues. Puisqu'en fait, peut-être des cyclones, puisqu'il y a eu un cyclone qui est déjà arrivé en 1981, qui a un peu dévasté l'île, et donc en fait, même pollué autour de l'île.
Donc il y a déjà eu une pollution liée à un cyclone sur Mururoa.
Voilà, donc en fait, bon, maintenant, en fait, avec le réchauffement climatique, en fait, bon, nous on a fait des calculs, etc., en fait, c'est le consensus aujourd'hui. Peut-être qu'il y aura moins d'événements cycloniques, etc., mais elles seront plus intenses. Donc la houle, on commence à le sentir ici, par exemple sur Tahiti. Il y a les côtes de la partie sud de l'île qui sont souvent inondées. Enfin, un peu plus souvent que ce que je connaissais quand j'étais petit. Donc par exemple, il y a eu deux en moins de 2 ans. Par exemple, à Tiopo, la vague mythique.
En fait,
la vague des Jeux Olympiques, il y a eu une inondation cette année.
Donc si ça arrive sur les atolls où il y a encore du plutonium, parce que c'est ça dont on parle.
Quand ça arrive sur les atolls, en fait, il y a pas que les cyclones, il y a les tsunamis aussi, parce qu'en fait, qui font que lorsque vous avez des inondations sur les atolls, ça fait déplacer les îles, en fait. En fait, ce qui fait office d'île, c'est du sable maintenu par un peu de végétation. Par exemple, à Tikehau,
un atoll
quelques
kilomètres d'ici.
Le village, il y a 100 ans, en fait, a été déplacé et s'est retrouvé dans l'eau.
Alors, qu'est-ce qu'il y a exactement, Keitapu Mamatuyauitapu, sur cet atoll de Mururoa? Est-ce qu'il y a encore des déchets nucléaires? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Comment sont-ils protégés?
C'est la question, en fait. D'ailleurs, la question se pose pas simplement pour Mururoa, elle se pose pour la France en général. Bon, faut savoir ce qu'on appelle déchet, en fait. Si on va voir la définition, je crois que c'est à l'Assemblée nationale, ils nous donnent une espèce de définition du genre, voilà, un déchet radioactif, c'est un élément radioactif dont on se sert pas. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est radioactif, c'est un déchet par définition.
Voilà, oui, y compris après, voilà. Du matériel, par exemple, voilà. Qui a servi
voilà,
dans
le
processus
par exemple,
de construction.
Voilà, en fait, bon, c'est vrai, on parlait de Mururoa, mais en fait, c'est intéressant que les gens sachent quand même que là, même en France, on ne sait pas la quantité de déchets produits par les militaires. On n'a jamais l'information, et puis dès qu'on a, on a une information, qu'un peu plus tard, ça change, etc. Ici, le gros problème, c'est que à Mururoa, donc il y avait les essais souterrains, donc qui supposent que la roche s'est vitrifiée, c'est dur à vérifier.
Donc c'est ce qui est annoncé, que en fait la roche a été vitrifiée pour pas qu'il y ait d'échappement de matière radioactive.
Exactement. Donc en fait il y a des fuites, en fait parce qu'il y a eu beaucoup d'essais à Mururoa, pas simplement pour la bombe, mais avec la matière radioactive. Donc en fait il y a une partie des déchets qui ont été délibérément jeté à l'océan.
Oui, pendant un moment, on considérait que c'était possible de jeter directement les déchets à la mer.
L'océan Atlantique, hein, d'ailleurs, en fait, par les Anglais et la France.
D'ailleurs. Oui, c'est ça. Il n'y a pas que la France, hein, il y a aussi les Américains et les Anglais qui rejetaient leurs déchets dans le Pacifique.
Voilà, en fait, mais ce qui est le plus terrible, c'est que si l'île se casse en deux, fait, tout ça se retrouve dans l'eau. En fait.
Mais est-ce que l'île peut réellement, est-ce que le risque est très important de se casser à ce point-là?
Le problème, c'est que là, ici, il y a une étude qui a été effectuée sur le récif barrière, mais en fait, la personne qui a fait l'étude n'a pas eu accès à toutes les informations, elle lui disait, mais donc on ne sait pas trop, en fait. On vit complètement dans l'ignorance de ce qui peut se passer. Mais bon, imaginons, enfin, le pire des cas, c'est que ça se casse en deux, donc en fait, ça va être une catastrophe écologique.
Parce que les puits qui ont été creusés pour tester la bombe sont aujourd'hui les puits dans lesquels les résidus nucléaires ont été enfouis.
Voilà,
c'est ça qu'il faut avoir en tête, parce que si il y a la montée des eaux, si ces puits sont inondés, si des typhons viennent les casser, eh bien, ils se retrouveront, ces déchets, dans le Pacifique.
Voilà, exactement. C'est un peu pareil aussi, les déchets qu'on balance en plein océan. L'océan, c'est la mer, c'est qui, on va dire, qui bouffe tout. En fait, vous mettez métal dans la mer, au bout de 2-3 ans, il n'y a plus. Hein. Et donc, la matière radioactive se retrouve à nu, en fait. Donc, oui, il y a eu des déchets, par exemple, à l'océan, à Hao, à Mururoa.
Donc, ça, on en est certain, on peut le mesurer. Vous-même, en tant qu'océanographe, est-ce que vous...
Non, en fait, c'est parfois, comme je disais, il y a des fuites, ou sinon, c'est délibéré.
Donc, ça, on en est sûr.
Voilà, c'est l'information qui vient des militaires, donc...
Mais les militaires considèrent que les fuites sont suffisamment
maîtrisées. Et puis les gens, en fait, le savent. Hein, à Hao, par exemple, ils le savent, ils l'ont vu. En fait, il n'y avait pas que les déchets radioactifs qui étaient balancés à la mer, mais des voitures, avait tout. Donc, puis il y a un tas encore de déchets radioactifs sur l'île de Hao, en ce moment. Voilà.
Cette conscience du risque, est-ce que le CEA, c'est-à-dire le Centre à l'énergie atomique, là, réellement, est-ce que des études qui sont faites?
Je pense que maintenant, en fait, parce qu'il y avait, maintenant, tout le monde est au courant, on a vu les photos des zones fracturées, etc. Ça faisait des fractures qui sont énormes. En fait, c'est complètement visible par avion. Et donc là, en fait, ils en sont conscients. Donc en fait, ils essaient de faire... Bon, je ne sais pas comment essayer de maintenir des petits bouts de coraux ensemble pour que ça ne tombe pas.
Donc il y a des travaux qui sont faits sur cette île.
Il y a des travaux, voilà. Il y a une tentative d'essayer de maintenir. Et puis il y a surtout, en fait, un réseau de surveillance pour voir quand est-ce que peut-être ça va se passer. Mais bon, on le sait très bien. Si ça se savait, on aurait prédit des séismes bien avant. Oui, parce que des éboulements.
Le risque, c'est aussi le séisme, ça. Voilà. C'est un risque dont on n'a pas encore parlé, mais la zone est sismique.
Voilà, c'est que bon, ce risque est très mineur chez Amoruro, parce qu'on s'est éloigné du point chaud, comme je disais. En fait, ici, on est à 500 000 ans, 1 million d'années, Tahiti, et puis Mururoa, c'est 30 millions d'années. Donc, en fait, ça, c'est vraiment très éloigné du point chaud.
Alors, ce que dit le CEA, les mesures confirment que les mouvements en profondeur continuent de se manifester. Leurs mouvements respectifs, on parle des mouvements de la Terre et des petits séismes, bien que lents, évoluent à différentes vitesses, entraînant des concentrations de contraintes régulièrement relâchées et provoquant une petite sismicité. Ça, c'est le bilan géomécanique 2007, cité par quelqu'un qui s'appelle Bruno Barrio, qui était un prêtre et aussi un activiste, et qui a alerté beaucoup au sujet de ces questions du nucléaire dans le Pacifique.
Oui, c'est Bruno Barrio, c'est passionné du nucléaire, je pense même du désarmement. Donc en fait, il a vraiment beaucoup, beaucoup œuvré là-dessus. Enfin, d'ailleurs, en fait, toute ma connaissance en fait, vient un peu de son travail. Et puis, bon, un peu de notre vécu, parce que j'étais gamin quand ça s'est passé.
Vous avez des souvenirs de ça? Voilà.
Oui, parce que nous, on savait quand il y avait un essai, etc. En fait, on le sentait, et puis les adultes disaient aussi, donc en parlaient aussi. Donc, après, moi, en fait, le gros truc, par exemple, ici, c'est avoir la photo de l'explosion. Les gens l'encadraient, mais dans leur maison.
Vous-même, vous l'avez encore, cette
pas
photo
moi,
d'explosion?
Non, pas moi, je ne l'ai jamais eu, mais c'est beau à voir, mais bon, je ne sais pas. Enfin, c'est une arme nucléaire, donc en fait, ça tue les gens.
Les Américains, sur un autre atoll, l'atoll de Eniwetak, ont construit un sarcophage de béton, un petit peu comme ça a été fait aussi à Tchernobyl, pour essayer de faire en sorte que...
Ouais, de contenir.
De contenir. Est-ce que c'est des choses qui sont imaginées aussi à Mururoa, selon vous?
Non, ça n'a pas du tout été imaginé. Enfin, l'armée française a plutôt enterré, pense avoir enterré les déchets. Majorité, parce qu'en fait, certains déchets, on les a encore sur l'atoll de Hao. Mais même si on fait un dôme comme ça, c'est une chape de béton, mais aujourd'hui, en fait, ça commence à se fracturer aussi. Mm-hmm. Donc, après 30 ans, le béton commence à se fragiliser, hein, donc, surtout au bord de mer. Donc, c'est très vite. Donc, en fait, il y a un gros danger aussi du point de vue en cas de réchauffement climatique. Donc, en fait, on ne parle pas assez. C'est que le Pacifique, c'est devenu le terrain de jeu de toutes ces nations occidentales pour leurs essais nucléaires. Il y a eu Eniwetok, les îles Marshall pour les Américains. Il y a eu les îles Christmas, en fait, c'est aujourd'hui appelé les îles Kiribati, en fait, où les Anglais faisaient leurs tests. Il y a Mururoa ici. Puis il y a le Japon qui a reçu une vraie bombe, où c'est pour tuer les gens. Donc,
Le Japon, il y a aussi quand même Fukushima, avec des rejets en mer de matériel, enfin d'eau, faiblement paraît-il radioactive, mais qui commence à être en effet rejetée dans l'eau. Ça pourrait être un petit peu la même chose, finalement, en termes de radioactivité que les fuites, s'il y en a à Mururoa.
Voilà, en fait, s'il y a des fuites, mais maintenant, en fait, on ne sait pas quelle est la quantité de déchets restés au fond, etc. Parce que ça pose, c'est le gros problème, c'est notre méconnaissance. En fait, on n'a pas les informations sur ça. Donc, en fait,
qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous?
C'est une grande question, c'est la question joker, parce que c'est très difficile, c'est parce que la radioactivité, on ne peut pas faire grand-chose, d'ailleurs. En fait, le garder même en France, les déchets utilisés dans le monde civil, on les enterre, en fait, on essaie de les...
À Bure, notamment, où il y a ce projet d'enterrer le déchet nucléaire.
En fait, on les enterre, puis on attend que la radioactivité baisse. Mais bon, si on prend le plutonium, c'est plusieurs milliers d'années, donc avant que ça diminue. Donc, en fait, que sa radioactivité diminue de moitié. Donc, il y a des produits radioactifs qui diminuent de moitié rapidement, donc, comme le tritium ou des choses comme ça. Mais après, c'est très lent, en fait. Donc, c'est très lent. En fait, c'est l'attente. En fait, en vie, autant, enfin, nous, ici, enfin, ça va être la pollution de l'océan, ça va être terrible pour nous, parce qu'en fait, c'est un peu notre garde-manger. On y pêche. Ici, on mange. C'est le pays où on mange le plus de poissons sur la planète par habitant. On mange énormément de poissons, plus qu'un japonais. Alors donc, pour nous, c'est une catastrophe. Moi, enfin, pour nous, simplement, c'est les autres îles du Pacifique aussi. Donc, parce qu'en fait, si on regarde régionalement, on a parlé de Eniwetok, etc. Donc, en fait, les autres îles aussi, bien que les Britanniques, eux, ils ont clamé qu'ils ont nettoyé l'île de Christmas, donc, en fait, où les essais ont eu lieu.
Est-ce que, vous qui êtes un homme politique indépendantiste, cette question, elle joue beaucoup dans votre engagement pour l'indépendance de la Polynésie?
Oui, ça a toujours été, ça fait partie, c'est un peu notre... La raison de l'existence de ce parti, c'est d'arriver, en fait, le parti existait depuis bien longtemps, en fait. Il y avait un parti indépendantiste bien avant celui-ci actuellement, le Tabni Huiratila. En fait, c'est le parti de Povana Opa, c'était un homme politique, sénateur d'ailleurs de France, et qui a été déporté d'ici, donc, par les généraux de Gaulle, par les militaires. Donc, il a été, amené en France, emprisonné en France. Mmh. Donc aujourd'hui, le nucléaire a toujours été un combat. Ça peut être un combat au départ, en fait, politique. Mmh. Et puis après, les églises se sont jointes à ce combat-là. Vous avez ici l'église protestante qui est dominante avec l'église catholique.
D'où peut-être Bruno Barrio, dont on parlait tout à l'heure, qui était religieux.
Oui, mais après, c'est je parle des religieux de la Polynésie. En fait, ils ont mis du temps parce que, comme je vous disais au début, on était ignorant de la chose, en fait, ignorant de ce que ça pouvait être néfaste. Et maintenant, les gens se rendent compte avec les maladies radio-induites, en fait, que c'est plus grave que ça, parce que comme le nuage qui était venu a forcément pollué non seulement les travailleurs sur l'île, mais en fait toute la population de Polynésie. Donc, en fait,
c'est très difficile aujourd'hui de l'évaluer précisément, parce que il est difficile de savoir si on est malade quand on a un cancer à cause de retombées nucléaires ou d'autres choses.
C'est très difficile aujourd'hui. Très difficile. Non, il y a certaines maladies, par exemple la thyroïde. Non, c'est très facile. En fait, le taux de thyroïde, cancer de thyroïde ici a augmenté, ne cesse d'augmenter. On a fait des comparaisons avec la Nouvelle-Zélande. Le taux d'augmentation ici est beaucoup, beaucoup plus élevé qu'en Nouvelle-Zélande. Donc, il y a des maladies qu'on sait très bien. Donc, mais c'est vrai qu'il y aura d'autres maladies qui vont naître. Surtout, ça atteint beaucoup les enfants à la naissance.
J'ai quand même une question à vous poser pour terminer. Je sais ce que vous allez répondre, mais le fait que la France dispose de l'arme nucléaire et protège potentiellement la Polynésie française d'une attaque de par la dissuasion nucléaire, est-ce que ça rentre pour vous dans l'équation aussi?
Non, pas du tout, parce que il n'y a jamais eu de guerre ici.
Mais peut-être qu'il y en aura un jour.
Pourquoi? C'est pas nous qui allons faire la guerre.
Non, mais peut-être qu'on vous la fera à vous.
Il y aura peut-être un missile qui va tomber sur notre tête parce que c'est les continents qui vont se tirer dessus. Mais ici, ça a toujours été un peu aussi le dada de la France de dire, des grandes nations d'ailleurs. En fait, aujourd'hui, par exemple, on participe à cette rivalité américano-chinoise. Et donc, en fait, la France s'est mise aussi dedans, certes. Mais après, ce qu'on nous fait circuler en ce moment, c'est ouais, mais si c'est pas la France, ça va être les Chinois. Je dis, mais nous on ne demande pas, il y a plein de petites îles indépendantes dans le Pacifique, il y a Samoa, le Fidji, le Tonga, c'est encore plus petit que chez nous. Il y en a plein, il n'y a pas de Chinois.
Donc vous n'avez pas besoin de la bombe.
Non, en fait, nous on est un peuple du Pacifique, donc on appartient au Pacifique, on n'a pas besoin de la bombe.
Merci infiniment, Keita Pou, Mamatou et Aouta Pou, de nous avoir parlé aujourd'hui des dangers du réchauffement climatique quand il croise le risque nucléaire au cours de cette émission qui a été enregistrée à Punaoia sur l'île de Tahiti. Elle fait partie d'un cycle polynésien cette saison dans Géographie à la carte, alors n'hésitez pas à retrouver les autres numéros consacrés à cette région dans le fil de nos podcasts sur l'application Radio France. Géographie à la carte, une émission de Mathieu Garrigou-Lagrange avec Anne-Vanessa Prévost, réalisation Jean-Christophe Francis, et dans un instant on retrouve le cours de l'histoire sur France Culture.